Bonjour à chacun. Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur les deux premières apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples. La première sans la présence de Thomas et la seconde avec lui. Thomas, qui est devenu malgré lui le représentant de celles et ceux qui doutent sur leur chemin de foi. Mais nous avons constaté cependant que tous les disciples, et pas seulement Thomas, ont douté de la résurrection de leur maître. Il faut bien reconnaître que la chose n'était pas facile à appréhender pour les disciples. Pour nous qui connaissons toute l'histoire, c'est peut-être une évidence, et encore pas forcément. Alors pour les disciples, en situation, c'était tout sauf évident. Ceci dit, la résurrection de Jésus est tellement fondamentale à la foi chrétienne, tellement fondamentale au ministère apostolique de ses premiers disciples que Jésus envoie dans le monde, qu'il était nécessaire que Jésus affermisse leur foi en sa résurrection, qu'il était nécessaire qu'il prenne le temps de les convaincre et de dissiper leurs doutes. Et c'est ainsi, lisons-nous au début du livre des Actes, que Jésus est apparu pendant 40 jours, 40 jours à ses disciples pour les enseigner. Voilà le début du livre des Actes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Oui, à l'évidence, une seule fois, une seule apparition ne pouvait pas suffire à les convaincre. D'ailleurs, si le texte biblique nous avait présenté les choses ainsi, c'est-à-dire une seule apparition de Jésus ressuscité, qui aurait suffi à convaincre les disciples, ce serait, me semble-t-il, finalement assez peu crédible. En fait, les multiples apparitions du Seigneur à ses disciples témoigne de l'authenticité du récit biblique, de l'authenticité du témoignage oculaire de ses premiers témoins. Un récit que les disciples n'auraient eu aucun intérêt à présenter de la sorte s'ils l'avaient inventé, tant ils y sont à leur désavantage. En effet, les disciples y apparaissent fragiles, perdu, désorienté, plein de doutes. Et Jésus va donc prendre le temps de les rencontrer à plusieurs reprises. Il va prendre le temps de les convaincre, prendre le temps d'affermir leur foi en sa résurrection. Et pour cela, il leur a aussi donné rendez-vous en Galilée. Souvenez-vous, c'était encore dans la chambre haute. Et voici ce que Jésus disait à ses disciples juste avant qu'ils ne partent vers le jardin de Gethsémané. Matthieu, chapitre 26, versets 31 et 32. « Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Et c'est ainsi qu'après l'ébullition des premiers jours et des premières apparitions, les disciples vont quitter Jérusalem pour rejoindre la Galilée dans l'espoir d'y retrouver leur maître. Exactement combien de temps s'est écoulé depuis la deuxième apparition avec Thomas ? Nous ne le savons pas exactement. En tout cas, suffisamment de temps pour qu'ils quittent Jérusalem, pour qu'ils fassent le voyage jusqu'à la Galilée un peu plus au nord. Et c'est donc là, en Galilée, sur les bords de la mer de Tibériade, appelée aussi la mer ou le lac de Galilée, le lac de Génézareth, que nous allons retrouver quelques disciples ce matin, auxquels Jésus va apparaître pour la troisième fois. Je vous invite à lire le récit donc, que nous allons méditer. Il se trouve à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, et je vais lire les 14 premiers versets. Jean 21, 1 à 14. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture car il était nu et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu, toi ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Après ces quelques mots d'introduction, nous passons à notre deuxième point, une pêche miraculeuse. Les disciples sont donc, pour ceux qui sont là, pour ceux qui viennent de cette partie de la Palestine, de retour chez eux, en Galilée. Et c'est tout naturellement qu'il retourne à la pêche sur l'initiative de Pierre. Notons que seuls 7 disciples sont présents à ce moment-là. Je dis c'est tout naturellement qu'il retourne à la pêche parce que je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut spiritualiser cette attitude des disciples et y voir quelque chose de négatif, un retour en arrière, un rejet du Christ, une apostasie, un retour à leur vie d'avant. En effet, il ne me semble pas nécessaire d'imaginer que ce retour à la pêche signifie que les disciples ont abandonné leur maître, qu'ils ont abandonné leur appel. À l'évidence, ils sont dans l'attente que Jésus se manifeste à eux. Et dans cette attente, ils s'occupent. Il y a des familles à nourrir. Ils ont eux-mêmes besoin de manger. D'ailleurs, notons que Jésus ne leur fera aucun reproche. Il ne leur demandera pas pourquoi ils sont retournés à la pêche, comme s'il s'agissait d'un reniement de leur vie de disciples. Au contraire, il va même les aider. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il faille voir dans ce retour à la pêche autre chose qu'un besoin de s'occuper, qu'une nécessité de subsistance, même si Jésus est ressuscité, il faut que ses disciples mangent. De plus, il est fort probable que toutes celles et ceux qui soutenaient financièrement le ministère de Jésus sont tous retournés chez eux. Il y a des marmites à faire bouillir. Et plutôt que de se tourner les pouces en tournant en rond à la maison, Pierre, accompagné de Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean et deux autres disciples dont le nom n'est pas révélé, décident d'aller à la pêche. C'est ce qu'ils savent faire de mieux, pour la plupart d'entre eux en tout cas, puisqu'ils étaient des pêcheurs professionnels sur les rives de ce même lac, avant qu'ils n'abandonnent leur filet pour suivre le Seigneur. Ces disciples sont donc pour la plupart des pêcheurs expérimentés. Ils connaissent ce lac par cœur. Ils en connaissent les moindres recoins. Ils connaissent tous les bons coins de pêche. Et tout pêcheur qui se respecte connaît tous les bons coins de pêche, n'est-ce pas? Et pourtant, après une nuit entière passée à pêcher, le constat est sans appel, rien. Nada, zéro poisson, les filets sont désespérément vides. Verset 3, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quelle déception, certainement. Ils ont dû tout essayer, toute la nuit, allant d'un bon coin à un autre, jetant et ramenant le filet des dizaines de fois, mais sans succès. Ils devaient être fourbus, frustrés et découragés, avec sans doute plus qu'une seule envie, c'est d'aller dormir quelques heures. Mais alors qu'ils s'approchent du rivage, le matin venu, un homme au loin les interpelle. C'est Jésus, mais ils ne le savent pas encore. Il est sans doute trop loin pour qu'ils le distinguent. Le texte au verset 4, se contente de dire qu'il ne savait pas que c'était Jésus. Notre homme sur le rivage, Jésus donc, leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Verset 5, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Autrement dit, avez-vous attrapé quelque chose ? Avez-vous pris du poisson ? Notons que l'interpellation « Enfants, mes enfants » peut aussi se traduire « jeunes gens ». La réponse des disciples est négative. Non, ils n'ont rien pris. Ils sont bredouilles. Alors Jésus, ils ne savent toujours pas que c'est lui, leur dit de jeter leur filet à droite du bateau en leur précisant qu'ils y trouveront du poisson. Verset 6, il leur dit « Jetez le filet à droite du bateau » Et vous trouverez. Pourquoi ont-ils obéi à cet étranger? Le texte ne le dit pas. Se sont-ils demandé s'il s'agissait de Jésus? Le texte ne donne aucune précision, si ce n'est qu'ils ont fait ce que cet homme leur a demandé de faire. Ils ont tenté leur chance une dernière fois. Après tout, pourquoi pas? Ils n'avaient rien à perdre. Verset 6, ils le jetèrent donc. Et là, c'est le miracle. L'incroyable se produit. Le filet se remplit de poissons à tel point qu'ils ne sont plus capables, pas capables de le retirer. C'est une pêche miraculeuse. Plus loin dans le texte, au verset 11, il est précisé que le filet était plein de 153 gros poissons. Il y a comme ça des événements qui frappent l'esprit et les détails nous restent dans la mémoire, j'allais dire à jamais, en tout cas restent gravés et on s'en souvient comme si c'était hier. Et c'est à l'évidence ce qui s'est passé ici pour l'apôtre Jean. C'est clairement un détail d'un témoin oculaire qui se rappelle. Tellement ça l'a frappé. La pêche est si extraordinaire qu'il décide de compter combien il y a de poissons. C'est certainement la pêche la plus importante qu'il n'ait jamais réalisée. Et Jean se souvient exactement qu'il y avait 153 poissons. Il y a donc tellement de poissons que les disciples ont du mal à retirer les filets. Et c'est à ce moment-là que ça fait tilt dans la tête de Jean. Ça fait tilt parce que ce qui vient de se passer ressemble tellement à ce qui s'est passé 3 années plus tôt au bord de ce même lac, au début du ministère de Jésus, quand après une nuit infructueuse, Jésus leur avait dit de jeter le filet et il y avait eu cette première pêche miraculeuse. Et c'est là que Jésus leur avait annoncé qu'il allait faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Souvenez-vous de ce récit. Luc nous en parle au chapitre 5. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. La similitude est troublante et le rapprochement avec Jésus s'impose soudainement à Jean. Et Jean s'écrit au verset 7, « C'est le Seigneur !» Et ces paroles de Jean font tilt à leur tour dans la tête de Pierre. Les pièces du puzzle s'assemblent d'un seul coup. Et avec l'impulsivité que nous lui connaissons, il se jette à l'eau après avoir remis son vêtement pour aller rejoindre le Seigneur. Notons que l'empressement de Pierre à rejoindre le Seigneur ne milite pas du tout pour des disciples qui se seraient éloignés du Seigneur en retournant à leur ancienne vie. Pierre est-il arrivé avant les autres ? Peut-être. Le texte ne donne aucun détail, simplement qu'il se trouvait à environ 200 coudées, c'est-à-dire à peu près 100 mètres du rivage. Et les voilà maintenant tous à terre. Ils s'approchent. Jésus a fait un feu de braise. Il y a du poisson, il y a du pain. D'où viennent-ils ? Leur origine est-elle miraculeuse ou pas ? La question a fait couler beaucoup trop d'encre. Sa réponse n'est pas déterminante pour la compréhension du texte. Jésus leur demande d'apporter plus de poissons. Et c'est Pierre qui s'en charge. Pierre qui monte sur le bateau. Pierre qui tire à terre le filet bien rempli. Pierre qui a tant à prouver au Seigneur. Puis Jésus invite ses disciples à manger. Mais il y a comme un malaise. Les disciples savent que c'est Jésus, dit le texte, mais ils n'osent pas lui demander, ils n'osent pas lui demander confirmation. Ils sont troublés, ils sont fatigués. Les réalités de la résurrection ne les ont pas encore complètement pénétrées. Il reste des doutes, il reste des questions. Ils sont encore et toujours dans cet entre-deux. Ils ont encore besoin que Jésus prenne du temps avec eux, du temps pour les rassurer, du temps pour leur montrer sans l'ombre d'un doute que c'est bien lui et qu'il est bel et bien revenu à la vie. Oui, les disciples sont sans doute un peu perdus. On les comprend. De plus, le lien avec cette première pêche miraculeuse est si flagrant qu'il doit susciter toutes sortes de questions en eux. Tout se passe comme si ça allait recommencer, comme il y a 3 ans. Alors comment comprendre ce qui est en train de se passer? Quel sens lui donner? Où Jésus veut-il en venir? Alors oui, je pense que les disciples sont perdus. Ils ne comprennent certainement pas ce qui est en train de se passer. Ils ne comprennent pas ce que Jésus veut. Ils ne comprennent pas ce qui va se passer ensuite. Ils ne savent pas non plus comment interagir avec leur maître. Ils sont sans doute encore gênés, honteux de l'avoir abandonné. Et c'est ainsi que Jean écrit au verset 12, « Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. » La grande question pour nous, en arrivant à la fin de ce message, est d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé et quel sens donner à ce qui se passe ici. Pourquoi cette troisième apparition de Jésus à ses disciples, que devait-il comprendre? Que devait-il apprendre? Nous l'avons déjà dit, il y avait bien évidemment l'importance d'ancrer la foi des disciples dans la réalité de la résurrection de leur maître. Parce qu'il fallait que cette réalité fasse son chemin dans leur cœur. Il fallait que tous les doutes soient dissipés. Et puis il y avait aussi ce qui va se passer après ce repas, quand Jésus va publiquement restaurer Pierre. Vous vous souvenez, m'aimes-tu, répété 3 fois. Toute la fin du chapitre va être consacrée à cela. Ceci dit, qu'en est-il de la pêche miraculeuse dont nous venons de parler? Est-ce qu'elle a un sens particulier? Qu'est-ce que les disciples qui étaient là devaient comprendre de cette pêche miraculeuse? Alors, quand on lit un petit peu les commentaires, on lit toutes sortes de choses, hein, ça part dans tous les sens. Certains ici tirent des lignes pour dire l'importance de l'obéissance au Seigneur. On est d'accord, bien sûr, c'est important d'obéir au Seigneur. Sauf qu'au moment où les disciples ont lancé leur filet, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Il me paraît donc difficile de voir ici une leçon sur l'obéissance au Seigneur. D'autres, dans une logique similaire, vont insister sur le succès garanti qui découle de cette obéissance au Seigneur. Et on se rapproche ici, dangereusement, me semble-t-il, de la théologie de la prospérité, qui affirme que la fidélité à Dieu se concrétise toujours par des bénédictions matérielles. D'autres encore vont insister sur l'aspect miraculeux de la pêche, en soulignant que Dieu n'attend que notre obéissance pour agir miraculeusement dans notre vie. Je pense que c'est totalement infondé, bibliquement parlant, même si, bien sûr, le Seigneur peut le faire, mais peut-être pas systématiquement. Si le sens de cet événement ne se trouve pas dans les pistes que je viens d'évoquer, alors où se trouve-t-il? Je crois que puisque les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, quand ils ont jeté leur filet, là où les leçons à apprendre sont forcément des leçons après coup, une fois qu'on réfléchit à ce qui vient de se passer. Et je vois ici essentiellement 3 choses. La première leçon concerne, je l'ai déjà dit, le renforcement de l'identité du Seigneur. C'est pour ça qu'il se manifeste à eux. Et ainsi, par ce miracle que seul Jésus pouvait accomplir, Les disciples sont confortés dans l'idée que cet homme est bien celui qu'ils ont suivi pendant 3 ans et qu'ils ont vu faire d'innombrables miracles. Cet homme, c'est leur maître, c'est Jésus. C'est lui qu'ils ont vu cloué sur la croix. C'est lui qu'ils ont vu mourir sur la croix. Et c'est lui qu'ils voient maintenant vivant sur les bords de ce lac, revenu à la vie. Il fallait que ça fasse son chemin dans leur cœur. C'est bien sûr la première chose. La deuxième leçon concerne le lien avec la première pêche miraculeuse. Une fois que les disciples ont compris que c'était le Seigneur, une fois que le filet était rempli, le lien était sans doute évident pour eux. Et que devaient-ils comprendre par là ? Peut-être que Jésus les rétablissait après leur abandon, que Jésus les confirmait dans cette mission d'évangélisation qu'il leur avait confiée déjà 3 ans plus tôt, quand il avait dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Souvenons-nous aussi que lors de la première apparition aux disciples, nous avons vu ça dimanche dernier, Jésus les a envoyés comme le Père a été envoyé. Oui, leur mission est d'être des pêcheurs d'hommes. Leur mission sera de faire des disciples, comme Jésus le soulignera, c'est ça, ce sera sa dernière parole, au bout des 40 jours avant de les quitter, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » La mission est là, c'est le cœur de la mission. Et puis la troisième leçon qu'ils pouvaient apprendre de cet événement, c'est qu'ils pouvaient et devaient entièrement faire confiance à leur maître. Leur maître qui est souverain sur toute chose, leur maître qui voit ce que eux ne voient pas, leur maître qui sait ce que eux ne savent pas. Oui, lui, il savait où était le poisson. C'est pourquoi ils peuvent et pourront toujours lui faire confiance, tout au long de leur vie, tout au long de cette mission que le Seigneur leur confie. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous pouvons et pourrons toujours faire confiance au Seigneur, tout au long de notre vie, tout au long de cette mission que le Seigneur nous a confiée. Et c'est vrai quand nous voyons, peut-être, où est le poisson, et c'est vrai quand nous ne voyons pas. C'est vrai quand nous comprenons, et c'est vrai quand nous ne comprenons pas. Parce que Jésus voit toujours ce que nous ne voyons pas, et il sait toujours ce que nous ne savons pas. Cette deuxième pêche miraculeuse était pour les disciples au bord du lac, et pour nous aussi, une invitation à la confiance, une invitation à la confiance en toutes circonstances. Chers amis, nous sommes nous aussi toujours dans des situations où nous ne voyons pas tout, où nous ne savons pas tout, et Dieu aussi nous invite toujours à lui faire confiance. Non pas parce qu'il va toujours tout arranger d'un claquement de doigts, mais parce qu'il sait tout et parce qu'il nous conduira toujours pour notre bien éternel. Oui, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, que j'ai de la visibilité ou pas, que je comprenne ou pas tout ce que je suis en train de vivre, Dieu m'invite à lui faire confiance. Il m'invite à m'attendre à lui. Oui, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'Église aujourd'hui, que nous ayons de la visibilité ou pas, que nous comprenions ou pas, Dieu nous invite à lui faire confiance et à nous attendre à lui. C'est vrai pour la recherche d'un deuxième pasteur, c'est vrai pour le renouvellement du conseil, c'est vrai pour la construction du presbytère, c'est vrai pour les relèves qui sont nécessaires à bien des niveaux, C'est vrai pour les inerties qui peut-être me frustrent. C'est vrai pour toute chose. Et c'est vrai en tout temps. C'est vrai parce qu'il sait toute chose et qu'il veut toujours le bien de son peuple. Ce que Dieu nous demande, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la vie de l'Église, ce n'est pas de tout savoir, ce n'est pas de tout maîtriser, mais c'est de toujours lui faire une pleine confiance. Lui sait où sont les poissons. Lui sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Il le sait et il nous invite à lui faire une pleine et entière confiance. Ce sera pour sa gloire et ce sera pour notre bien. Amen.